recevoir dans notre église de Saint-Jean-Baptiste un groupe d'élèves en secondaire 4 d'une école secondaire de notre quartier. Et la thématique choisie par les élèves de connivence avec leur professeur était la suivante. Quelle est l'origine des sacres et des blasphèmes à la québécoise? Attention, les paroles qui suivent peuvent ne pas convenir à un jeune public québécois sensé. Ils ont pensé, fort pertinemment, qu'un curé pourrait peut-être les éclairer sur ce sujet. J'aurais aimé pouvoir les inviter ici ce soir, afin qu'ils en apprennent un peu plus en cette fête de l'Eucharistie et du sacerdoce sur les origines de mots prononcés correctement, comme sacrement, hostie, un calice, qu'est-ce qu'un ciboire, qu'est-ce qu'un tabernacle. Oui, en ce jeudi saint, nous faisons mémoire du dernier repas de Jésus et de la première messe eucharistique de l'Alliance Nouvelle. Rendez-vous compte, chers frères et sœurs, nous sommes ici ce soir à cause d'une parole de Jésus que nous venons d'entendre sous la plume de l'apôtre Paul. Faites cela en mémoire de moi. Nous sommes ici pour cela, la mémoire. Faire mémoire. Ceux qui accompagnent des personnes qui ont la maladie de Alzheimer le savent. La mémoire est la faculté qui confère l'identité, l'intelligence relationnelle. Mon propre papa a été affecté par cette maladie durant plus d'une décennie. Il s'accrochait tant bien que mal à tous ses souvenirs, sentant bien que quelque chose de lui-même s'effaçait en même temps que ses souvenirs. La mémoire qui lui restait, c'était les chants qu'il avait entonnés, qu'il avait habités pendant toute sa vie. Il chantait des vieux cantiques. On googlait des extraits d'opéra qui nous sortaient comme ça, à brûle-pourpoint, sans crier gare, et on retrouvait des opéras entiers. Il chantait aussi d'autres chansons que je n'évoquerai pas en ce saint lieu. Notre pape François, lors d'une commémoration chrétienne de la Shoah avec nos frères juifs, rappelait que c'est la mémoire qui façonne notre propre sagesse, c'est la mémoire qui façonne la sagesse du monde. Effectivement, l'actualité confirme par la négative que nous avons souvent la mémoire bien courte. Pour faire revivre des moments particuliers de l'histoire, il existe toutes sortes de groupes, d'associations, parfois un peu bizarres, qui tiennent des congrès sur toutes sortes de thèmes. On reconstitue des tournois du Moyen Âge, des batailles napoléoniennes, des héros de bandes dessinées, de romans célèbres. J'ai croisé un soir la fille d'amis qui sortait rejoindre une soirée thématique au cours de laquelle toutes devaient se revêtir en Wonder Woman. Les survivants d'une grande bataille, au départ belligérants, se sont retrouvés à date fixe chaque année, toute leur vie durant, pour faire mémoire de cet affrontement décisif d'une guerre qui n'avait plus sa raison d'être, feuilleter un album photo, visionner les vieux films qui traînent dans nos fonds de placards. Ça nous replonge dans des liens, dans des émotions. Ça réactive des sentiments et ça fait quelque part revivre des événements. La mémoire réactualise les choses. Hier soir, au cours de la messe chrismale qui avait lieu à la cathédrale, autour de notre archevêque, il y avait foule de diacres, de prêtres, de représentants de toutes les paroisses. Et c'était comme chaque année l'occasion de faire mémoire pour ceux qui ont été ordonnés de faire mémoire de leur profession, de leur engagement, renouveler leur engagement. C'est une façon de mesurer le chemin parcouru, de faire une sorte de reset, hein, de revenir un peu aux premiers amours qui nous ont entraînés sur nos engagements de vie. La mémoire, le mémorial de l'Alliance, c'est donc le moyen particulier par lequel le peuple juif a perpétué un souvenir vivant de cette grande épreuve que fut la captivité en Égypte et qui se transforma en véritable expérience de libération nationale. C'est à l'origine de la fête de Pâques, Pâques signifiant passage, Pessah. Au cours du repas pascal, parce que la première lecture du livre mettait la table, si je peux permettre, de ce repas traditionnel, ce repas rituel qui s'appelle le Seder. Seder qui veut dire l'ordre. Tel que décrit en partie par ce livre de l'Exode et que nous avons entendu. Il est usage qu'on demande aux plus jeunes présents au repas de venir et de poser une sorte de question rituelle. C'est pas très spontané, mais c'est un acte presque liturgique. La question est la suivante. Il demande, ce plus jeune, pourquoi cette nuit est-elle différente des autres nuits? Et il appartient alors à un ancien de répondre en racontant l'histoire de la libération, de la sortie d'Égypte. La mémoire, tout comme nous-mêmes, elle a besoin, elle aussi, de faire de temps en temps un peu d'exercice. Et tandis que le peuple continuait de rencontrer de nouvelles épreuves, des guerres, des déserts, des exils, des famines, des persécutions, on faisait toujours mémoire de la Pâque et on se rappelait que si Dieu nous a sauvés, il ne nous a sans doute pas conduits jusqu'ici pour nous laisser tomber, il nous sauvera encore. Faire mémoire du passé pour regarder le présent dans l'espérance. C'est le moment précis, c'est ce moment précis du Seder que Jésus a choisi pour ouvrir dans ce repas mémorial un message universel de salut et d'amour. Ces prescriptions sont pour toujours, hein, disait la lecture que nous avons entendue. Et elles sont toujours effectives. Et Jésus est venu ouvrir. Déverrouiller, ouvrir des nouvelles portes. Des portes qui font que ce repas de Pâques, ce Seder, c'est aussi devenu le nôtre. Sainte Thérèse de Lisieux, dans cet extraordinaire poème intitulé « Vivre d'amour », parle de ce soir du Jeudi Saint comme étant le soir d'amour, au cours duquel Jésus parle désormais sans parabole. On est dans le tragique, on est dans le réel, on n'est plus dans les images. La mémoire du passé, le présent, présent dramatique en ce soir du Jeudi Saint pour Jésus, l'avenir de l'Église et du monde converge vers cet instant durant lequel Jésus proclame « L'agneau de Dieu, l'agneau de la Pâque, c'est moi ». Le sang, c'est-à-dire la vie qui marque les montants de la porte de ton cœur, c'est moi qui le donne, c'est ma vie. Le pain de vie qui nourrit le corps, le cœur, l'âme et qui se renouvelle chaque seconde et pain azim, c'est moi. Ce Jeudi Saint, Jésus télescope, il récapitule tous les signes de la Pâque en lui-même pour le donner au monde d'une manière renouvelée jusqu'à nous. Le signe de l'Alliance, jusque-là manifesté à travers le destin du peuple juif, s'ouvre désormais à l'universel, jusqu'à l'Église, jusqu'à nous rassemblés ce soir pour revivre autour de cet autel, faire mémoire vivante du don d'amour de notre Seigneur. Le texte qui institue l'Eucharistie dans l'Évangile de Jean, c'est celui du lavement des pieds. que l'on vient d'entendre et dont nous revivrons dans un instant un geste mémorial, symbolique. C'est un peu moins explicite que dans les autres évangiles et on ne fait pas toujours tout de suite le rapprochement entre le geste du lavement des pieds de Jésus et l'Eucharistie, telle qu'on la connaît, telle qu'on la célèbre de jour en jour ou de dimanche en dimanche. Néanmoins, nul besoin de grands commentaires pour comprendre la portée de l'acte d'humilité, de service, d'amour, de ce signe donné par Jésus à ses disciples. Car l'Eucharistie, c'est le signe vivant de l'amour présent, la présence réelle dans l'Eucharistie. Ce n'est pas une pilule radioactive, c'est dans le mystère de la foi, et c'est néanmoins la toute-puissance de l'amour créateur et sauveur de notre Dieu. Cette présence, elle devient effective lorsqu'elle est mise en acte, par la foi, par un geste, par une parole d'amour. La foi, et la foi seule, nous met en lien de communion réelle avec les énergies divines. La théologie de la présence réelle dans l'Eucharistie est plus qu'une querelle de concepts. Pas plus que c'est une sorte de compétition en vue de celui de qui pourrait croire en ce qui paraîtrait le plus incroyable. L'hostie qui repose dans ce tabernacle peut garder l'aspect de ce petit bout de pain inerte. Mais cette même hostie contemplée avec foi dans l'adoration silencieuse, comme par la célébration de la communauté rassemblée dans la foi, la louange, se révèle comme signe et source d'un amour infini. Tout comme Jésus aux yeux de Marie-Madeleine le matin de Pâques, comme Jésus au regard des disciples d'Emmaüs, ou comme nos propres expériences de rencontre du Christ vivant et aimant dans le Saint-Sacrement. Et je pense à Saint Charles de Foucault, devant l'hostie qu'il adorait dans son petit ermitage en Afrique du Nord, aux yeux des Touaregs du village qui l'entouraient, il s'agissait d'un curieux bout de pain, un peu survalorisé dans une espèce d'ostensoir. Mais l'amour contemplé dans la foi et mis en acte bien concrètement dans la vie du frère Charles devenait, lui, bien tangible et reconnaissable par tous. C'est cela le lien entre l'Eucharistie et le lavement des pieds. Quelles que soient les diverses interprétations théologiques de l'Eucharistie, on revient toujours à ce soir d'amour durant lequel Jésus, qui se prépare à donner sa vie par amour, en union avec son Père, nous rappelle que seul l'amour divin est éternel. L'amour seul ne passera jamais. L'amour seul rejoint notre humanité profonde pour en faire du ciel, pour en faire de l'éternel transfiguré. Je pense à cette parole que nous entendrons demain à l'office du Vendredi Saint, lorsque Pilate présente Jésus sur le prétoire et il dit à tout le monde « Voici l'homme, voici l'humanité, voici Jésus et l'humanité qui ne font plus qu'un ». C'est vous, c'est moi, c'est toute l'humanité qui est touchée, habitée par l'amour du Père en Jésus. Lorsqu'il distribuait la communion aux fidèles de son diocèse, il paraît que l'évêque Augustin utilisait la formule « Reçois le corps du Christ et deviens ce que tu reçois ». Devenir ce que nous recevons, c'est prendre la place de serviteur plein d'amour, qui ne se laisse arrêter par aucune malice pour que nous fassions pour les autres ce que lui-même a fait pour nous. Voilà l'image du bon pasteur. Et comme je voudrais profiter de l'occasion ce soir pour demander vos prières et demander pardon au nom de tous les prêtres de l'Église pour toutes nos infidélités à ce modèle du bon pasteur. En Italie, j'entendais souvent une expression qui revenait dans les journaux, puis un peu partout. « Oui, mais qui paye ? Qui paga ? Qui paye ?» C'était le titre d'un journal. Il y avait eu un attentat quelque part dans la ville, et puis on parlait de la mafia. « Mais qui paye cet attentat ? Qui est derrière ça ? » Il y avait un nouvel institut qui ouvrait à Rome de spiritualité. Alors on demandait, qui paye? Qui est derrière ça? Qui paye pour vos études? Cette expression un peu malicieuse, elle met en garde devant l'apparence des faits ou de la vertu. En fait, ça sert les intérêts de qui? Or, le soir du Jeudi Saint, et en particulier lors de l'épisode dramatique de la scène, celui qui paye, c'est Jésus, l'agneau de Dieu. La scène est le rendez-vous avec ce grand moment de vérité de la vie de Jésus et de celle du monde. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. L'engagement de la vie par amour, dans la confiance des enfants, en s'abandonnant dans les mains du Père, pose les véritables fondements de notre appel à la sainteté, à nous laisser transformer en ciel. Que nous gardions tous en ce soir, en cette nuit, mémoire en Église du modèle d'amour éternel, universel, que le Christ nous adresse ce soir. Amen.